Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel audio de ce cycle consacré à la 12e mère clanique. Et alors que nous avons vu ce mois-ci que la médecine de l'élan est intimement liée à cette 12e mère primordiale, celle qui glorifie, eh bien nous allons un peu mieux comprendre que sa médecine qui est de renforcer l'estime de soi est tellement importante et juste à cette place-là, parce que c'est avec une bonne estime de soi qu'on se sent en fait à sa juste place et est suffisamment apte à comprendre à quel point nos créations et tout ce que l'on fait, nos agissements, nos comportements sont nécessaires à ce monde. À quel point nous-mêmes, notre être, est nécessaire à ce monde. C'est ainsi que j'ai envie de commencer cet audio par cette introduction à l'estime de soi et articuler ainsi la gratitude et le retour à la maison soi, de retrouver ce que l'on est et tous nos potentiels avec le fait de célébrer parce que nous sommes au mois de décembre et c'est très important dans notre société. Ce mois de décembre, hein, parce que forcément il est consacré à l'une de nos plus grandes fêtes. Et nous allons voir tout ça dans cet audio. Alors comme je vous le disais, le point de départ c'est notre société actuelle. Et bien nous savons bien aujourd'hui que l'accent est continuellement mis sur notre productivité et il est parfois très difficile de ne faire que seulement ralentir, et quand on y arrive nous ressentons énormément de culpabilité. Nous avons pu le voir dans les mois précédents qui étaient dédiés à un peu plus de silence et d'arrêt. Et lorsque on arrive le soir et qu'on n'est pas forcément épuisé physiquement, on peut même oser dire qu'on a passé la journée à ne rien faire, à ne pas être productif et que c'était une journée perdue. Mais est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Parce que si nous n'avons rien fabriqué avec nos mains ou réparer, nous avons peut-être pris le temps de prendre tout simplement soin de soi ou de nous mettre dans le silence nécessaire pour permettre une certaine contemplation, pour structurer nos idées, planifier les futurs jours à venir, etc. etc. Donc oui, ralentir, contempler est nécessaire et c'est peut-être pour ça que l'on évite de célébrer parfois certaines petites choses, parce que célébrer n'est pas quelque chose de productif. Mais est-ce que finalement nous avons réellement une idée précise de ce que nous réussissons à faire, à achever en une seule journée et en un an? Que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, émotionnel et même spirituel. En fait, nous avons besoin de prendre le temps d'apprécier nos réalisations et de célébrer tout ce à quoi nous avons donné vie pour être capables de voir le chemin parcouru. Cette année, en 2020, cette année qui se termine, j'ai décidé d'honorer toutes mes réalisations créatives, c'est-à-dire que je me suis mis comme but de faire une petite vidéo de toutes mes grandes toiles et au moins de tout photographier, que ce soit petit ou grand, de toutes mes réalisations, parce que parfois je les offre ou je les vends. Et bien souvent, je n'ai même plus de souvenirs, et c'est aussi simplement une manière de dire que je suis fière qu'elles soient venues au monde. Donc on peut voir que célébrer, ce n'est pas uniquement faire une grande fête, mais que célébrer signifie aussi plutôt le fait de créer une occasion ou un moment qui va être doté d'une valeur significative pour nous, qui va avoir du sens. Comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas uniquement de fêter nos anniversaires, les fêtes de calendrier, les bonnes nouvelles, parce qu'il est tout aussi important de mettre à l'honneur tout ce que nous avons fait et accompli, et tout ce que nous avons défait également. Nous avons appris que construction et déconstruction étaient nécessaires dans les mois précédents. C'est pourquoi il nous faut aussi célébrer naturellement, c'est ce qu'on fait, la conclusion d'une vie avec un enterrement qui lui aussi est une célébration. Alors, les cérémonies de célébration nous permettent de fêter eh bien, nos dons, mais aussi tous les événements de la vie, et cela avec intention, donc avec le cœur et avec du sens. Cela va nous permettre donc de voir le chemin parcouru, les guérisons pardon, qui ont eu lieu, et qui vont nous donner aussi du courage pour la suite, mais aussi bien évidemment de nous permettre de comprendre que nous sommes ou non dans la vérité, et que nous sommes peut-être la vérité incarnée. C'est aussi une façon de partager, d'être généreux, car l'acte de générosité est très important pour notre évolution humaine, nous allons le voir, et vous l'avez peut-être déjà lu. Partager l'abondance, donner tout autant que recevoir, est ce qui va nous ancrer dans une nouvelle conscience. C'est cette générosité qui nous permet en fait de nous connecter avec notre moi supérieur qui est notre maison soi. Donc vous l'avez vu, c'est un thème tellement important que j'y ai dédié un article entier sur le blog du site hein, où je vous ai mis le lien au-dessus de cette audio. Lors de ce cycle, j'ai en effet rencontré à plusieurs reprises cette carte de la générosité. Et c'est une carte qui est positionnée sur le chemin du retour vers une intégration, vers une défragmentation. Donc on peut dire que l'évolution produit un aller-retour jusqu'au point de la séparation la plus totale. Donc on suit le chemin jusqu'à la séparation et ensuite on fait le chemin du retour vers à nouveau la réunification, vers la source, hein, le grand mystère. Et donc, cette carte se situe longtemps après la séparation, quand on est déjà sur le chemin du retour, qu'on a déjà fait pas mal de travail sur soi-même. Et voilà, c'est vraiment très très important de passer par cela, cette compréhension, pour aller encore un petit peu plus loin. Parce que cette question de la générosité n'apparaît pas par hasard à ce moment-là de la 12e lune, hein. C'est la lune de septembre, celle qui nous prépare à fêter eh bien le solstice ainsi que la naissance du Christ, hein, Noël pour les chrétiens. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs hein, que l'Église avec un grand E majuscule a choisi délibérément cette période hein, pour la fête chrétienne de Noël, parce qu'il a été prouvé que Jésus est bel et bien né en mars. Alors pourquoi vouloir décaler ainsi sa naissance? Parce que eh bien, ce n'est pas sa naissance physique que nous fêtons, mais bien la naissance du Christ, c'est-à-dire la conscience christique dans la personne de Jésus, dans le personnage historique de Jésus. Et cette conscience christique-là, elle a bien d'autres noms. Nous l'avons vu dans le collage de cycle, hein, sous la forme d'une maison soi. Et en fait, cette conscience christique toute dorée comme ça, c'est notre conscience la plus élevée, ce que Carl Gustav Jung, lui, appellerait le soi, ou ce qu'on nomme également le moi supérieur. Donc véritablement une conscience élevée. Agir selon nos convictions, et selon les enseignements des mères originelles, hein, qui sont là pour révéler nos potentiels, eh bien, vont nous permettre de donner naissance en nous à cette conscience dorée et supérieure. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire dans cet audio que nous pouvons tous devenir des Christ? Eh bien, oui, c'est ce que je dis. Attention, hein, pas des Jésus, mais des êtres éveillés et maîtres de leur agissement sur terre, comme Jésus, hein, comme lui, ou Bouddha, ou encore d'autres. Ce que je dis, c'est que nous pouvons donner naissance en nous à notre moi supérieur, et que c'est ce potentiel qui réside en chacun de nous qui est fêté en décembre. Et c'est aussi en fait ce que nous dit Jésus, mais que nous interprétons souvent trop mal, parce qu'il a dit que tout ce qu'il fait, nous pourrons le faire, et bien plus encore. Alors, au moment où les jours sont les plus courts, hein, donc en décembre, où la nuit est partout et où nous nous trouvons face à notre propre ombre, hein. Peut-être que c'est même uniquement ce que l'on voit. Donc notre ombre, c'est aussi tout ce qu'on a voulu cacher, mais également toutes nos déceptions, nos peines et nos souffrances. Et c'est à ce moment-là qu'est choisi de fêter la naissance de la lumière. Et c'est aussi ce que nous confie Marie, la mère de Jésus, Marie que je vois comme une prêtresse absolument fabuleuse et d'une grande, grande sagesse. Elle nous dit que toute croissance spirituelle ne peut se produire sans souffrance. Et finalement, c'est toute la signification du symbole hein, qui lui est souvent attribuée. Je ne sais pas si vous connaissez ces représentations statuaires de Marie, où on voit son cœur qui se retrouve planté d'épées et qui saigne. Eh bien, ce cœur-là se déploie quand même malgré la souffrance. Et on peut même dire que c'est par toutes ces peines, ces obstacles, ces conflits, ces pertes que l'on vit, qui font que notre cœur justement se développe et que nous-mêmes, nous sommes dans la croissance. Donc voilà toute la signification aussi de ce moment particulier dans l'année. Donc ok, très bien. Maintenant, comment faire? Comment faire pour déployer cette conscience de générosité en nous? Eh bien, nous avons compris de plus en plus ce qu'est la séparation intérieure, à force d'y être confrontés, à force d'utiliser nos perceptions pour l'analyser. Et une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on les a vues, eh bien, on a réussi de plus en plus à réunifier nos parts intérieures en suivant les conseils et enseignements des mères originelles notamment. Et on a pu comme ça eh bien, réengager la connexion entre notre inconscient, notre ombre et notre ego aussi qu'on a pu voir qui est véritablement séparé de nous. Et cette unification est ce qui a été le plus recherché, quelles que soient les traditions spirituelles du monde entier. Et on va lui donner plein de noms différents. Et c'est le mariage alchimique, le mariage sacré, l'union divine. Et l'on nous donne, lorsque nos polarités, pardon, sont enfin unies, en fait, ces spiritualités-là vont nous donner cette information, c'est l'union de ces polarités va produire une chose absolument fabuleuse qui est l'activation d'une troisième force. On retrouve ça dans l'hindouisme, on retrouve ça dans l'alchimie et on peut le comprendre sous la forme suivante. Il y a la force de notre pôle masculin, le domaine du fort de l'action, qui va s'unir à notre féminin qui est la réceptivité. Ce qui nous donne donc, en addition, que l'on va agir dans le monde à travers nos convictions, à travers notre intuition, à travers notre amour inconditionnel. Et lorsque nous le faisons, cela de plus en plus, et bien à mesure que nous avançons sur notre chemin sacré, et ce, peu importe les voies que nous avons choisies, peu importe les traditions, peu importe les cultures, et bien on va agir selon notre vérité. Et dans cet atelier, c'est exactement ce que nous souhaitons approcher de plus en plus. Et on va le faire une fois, deux fois, et de plus en plus souvent, de plus en plus profondément, on va en prendre l'habitude. Et en ce 12e cycle lunaire, eh bien, on a l'affirmation que notre troisième force a été activée, et cela de plus en plus souvent. Donc, nous avons été à la place de cette pécheuse, nous avons péché notre moi supérieur à de nombreuses reprises. Cette conscience-là, cette conscience du moi supérieur, cette conscience élevée, elle est remplie d'un amour qui est totalement indescriptible par les mots humains. Mais notre moi supérieur va nous l'offrir à notre petit moi, voilà, général. Et à chaque fois que cette conscience va être activée dans l'union sacrée, elle va nous faire ce cadeau de cet amour, tout simplement, comme ça, parce que c'est ainsi. Et nous sommes capables de le voir désormais, de le ressentir, grâce à la pratique de la gratitude, notamment, que l'on a vue en début de mois. Mais Sommes-nous tout à fait capables de le recevoir à 100%? Pour les astuces hein, qui vous permettent d'apprendre à mieux recevoir, je vais vous prier de vous rendre à nouveau dans l'article que j'ai consacré à ce sujet et que j'ai mis sous forme d'article parce que j'ai souhaité l'offrir au plus grand nombre de lecteurs ou de personnes qui s'aventuraient là. Mais sachez que parmi toutes les pierres que j'ai pu citer, eh bien, la plus encline à faire ce travail est bien l'opale rose. Mais elle est assez coûteuse hein, quand même. Donc la seconde pierre que je peux vous recommander, c'est le quartz rose qui lui va se trouver beaucoup plus facilement et que peut-être vous avez déjà même à la maison. Donc arrivé ici, à ce stade, vous comprenez sans doute un peu plus pourquoi le message de la mère de clan nous disait d'éprouver de la gratitude pour le fait d'être. Parce que nous nous employons à développer en nous cette nouvelle conscience en étant rien que présente à ce cheminement et par le fait de nous demander de nous arrêter et de contempler, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on est, montre à quel point cela est important, pas seulement pour nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour toute l'humanité, pour l'humain, et même beaucoup plus encore. On voit que cela est important pour les archétypes, comme les mères de clan, qui sont plus que cela selon nos croyances, cela dépend. Et on voit que donc que nos efforts, et ben en fait, sont importants pour nos guides hein, et pour l'univers entier. C'est pourquoi on nous demande vraiment, vraiment d'éprouver de la gratitude pour tout ce que nous sommes, pour tous nos potentiels que l'on met en œuvre par notre temps, par la sueur que l'on y consacre, par la force que l'on utilise pour traverser les différents moments, les différents événements de notre vie, ces souffrances hein, qui nous mettent face à notre croissance. Et on continue, et on ne s'arrête pas, on ne baisse pas les bras, et on affine notre être qui se développe dans cette nouvelle conscience, et c'est ce en quoi on nous demande de regarder totalement. Voilà, avec un œil un peu plus objectif peut-être, de voir que c'est exactement ce chemin-là que l'on emprunte et à quel point c'est important qu'on le fasse. Alors voilà, voilà pourquoi, pour en revenir à Noël, eh bien voilà pourquoi les fêtes de Noël, hein, je dis Noël, mais on peut bien entendu les traduire hein, de façon païenne ou non. En tout cas, je parle de ces fêtes de la lumière qui tournent autour du solstice d'hiver. Eh bien, pourquoi ce sont les plus grandes célébrations de l'année? En tout cas, dans ma culture, il s'agit véritablement de la plus grande fête de l'année, en tout cas. Mais par rapport à aujourd'hui, ce ne sera jamais rien comparé à ce qui était fait dans le temps, parce que à l'époque celte, par exemple, les célébrations de solstice d'hiver étaient beaucoup plus festives et surtout elles duraient beaucoup plus longtemps, environ 12 jours, les jours qu'on appelait les jours des cinglés. C'était au minimum des repas, des danses, des musiques, des chants et puis des feux absolument grandioses. Aujourd'hui, il nous reste 6 jours officiels, du 25 jusqu'à l'Épiphanie, plus si on commence à fêter véritablement à partir du 21, voire même la veille du solstice. Et ce qui est important, c'est que le thème dans la tradition celtique était le même qu'aujourd'hui. Il s'agissait de la renaissance et de l'amour, qu'il soit humain ou divin. À cette époque, à notre époque, en décembre, l'année se meurt et laisse place à la nouvelle. C'est pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une fête de naissance, mais bien de renaissance. Ce qui fait le lien avec absolument tout ce que nous avons dit plus haut. Dans le christianisme, nous ne célébrons pas finalement la naissance de Jésus, mais sa renaissance en tant que Christ, ce qui est très différent et qui a été véritablement oublié de nos jours, alors que même nos racines celtes célébraient d'une grande importance ce thème-là. En tout cas, que ce soit aujourd'hui ou hier, Un des rituels est bien rester actif, c'est le rituel du cadeau. On a parlé de générosité hein, juste avant, et on peut commencer à connecter comme ça tous les petits morceaux ensemble, hein, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, offrir c'est un véritable plaisir, c'est un geste magnifique, parce que nous devons nous connecter profondément à l'autre hein, pour trouver un cadeau qui le touchera, pour savoir ce qui lui fera plaisir. Donc nous nous situons dans un espace sacré à l'intérieur et nous ouvrons notre cœur, ou mieux encore, nous laissons totalement parler notre intuition. Mais maintenant, retour aux époques amérindiennes et celtes et intéressons-nous maintenant aux différentes étapes d'une cérémonie. Dans le conte de Jamie Sams, on mène la cérémonie intime, donc la cérémonie du nom, en plusieurs étapes. Pour commencer, il y a des paroles de gratitude pour ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Puis c'est l'invitation des esprits alliés et protecteurs en s'assurant bien de leur bienveillance. Ensuite, c'est le moment de la bénédiction, des demandes et des remerciements. On termine ensuite par de nouveaux remerciements pour l'intervention des esprits qui sont venus lors de la cérémonie. Et puis enfin, c'est la fin où la prêtresse ou la mère, dans notre cas, se déconnecte et ensuite on peut faire la fête, manger et danser. Donc on voit qu'il y a énormément de remerciements et c'est pour ça qu'on a commencé par le thème de la gratitude. On voit aussi qu'il peut y avoir de grandes similitudes avec les cérémonies celtes du solstice, comme vous allez le voir. Sachez cependant qu'ici nous ne nous intéressons seulement aux actes qui étaient faits dans la famille, dans le foyer, parce que eh bien, nous n'avons rien retrouvé comme témoignage de ce qu'il se passait dans les temples, chez les druides. Donc les temples, bien entendu, c'était le sauvage à l'extérieur. Et donc, nous ne pouvons que comparer avec ce qui nous reste de tradition. Tout d'abord, on commençait par nettoyer toute la maison en profondeur, donc tous les recoins, la literie, tout, et toujours avec intention. C'est-à-dire que la poussière était nettoyée et en même temps visualisait un nettoyage énergétique et profond des choses et de nous-mêmes. De nos jours encore, on procède par exemple à la fumigation ou à la dispersion d'eau bénite pour le nettoyage d'avant-rituel. Ce qui n'était pas enseigné dans le conte, mais qu'on peut tout à fait imaginer être possible. Ensuite, il était question de ramener une énorme bûche. Et là, c'est la chose la plus incroyable, mais véritable, il était question de la sculpter en vieille femme. Donc le but était de représenter le froid et la mort, qui seraient symboliquement réduites en cendres le 25 décembre. Et pour cela, on lui donnait forme par une vieille femme, une sage, qui était donc aussi le visage qu'apporte la nuit et la souffrance en même temps que l'illumination de la sagesse, ce qui est vraiment très 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 symbolique ici de la présence de la déesse qui a toujours ce double visage de vie et de mort et de revie. Et c'est encore une fois, ici on peut le voir, une question de renaissance hein, qui est faite. Le jour du 25, ensuite, on réalisait des libations de cidre ou de bière. Et on plaçait la grande bûche dans le foyer dès le matin, donc elle était mise à brûler, et elle était tellement grande qu'elle pouvait tenir toute la journée, chauffer toute la journée, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle brûlait, eh bien, c'était la fête. Ensuite, plus tard, le lendemain, les cendres étaient placées dans le jardin pour faire des vœux, pour avoir une bonne récolte pour l'année à venir. Alors aujourd'hui, on allume aussi des choses, hein, on allume peut-être notre poêle, ou alors on allume souvent des bougies qui sont symboliquement aussi des demandes de renaissance, de lumière. On utilise aussi beaucoup le symbole des étoiles dorées qui représente aussi la conscience christique, la conscience qui renaît à son plus haut potentiel. On voit donc que nos célébrations n'ont pas besoin d'être aussi grandioses qu'une immense réunion de village, hein, comme dans le 12e conte, et qu'il suffit parfois de très peu pourvu que ce soit significatif et fait avec intention. Vous voyez, une bougie suffit, une bûche suffit. Ou alors une photo souvenir, un repas spécial hein, qui n'est pas forcément fait avec énormément de monde, mais en s'autorisant soi-même une petite friandise, ou de prendre tout simplement un bain, ça peut aussi fonctionner. Et on voit bien aussi que le contraire est vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire d'immenses fêtes, mais s'il n'y a pas la moindre intention, eh bien, on ne va pas mener de véritables célébrations. Comme bien souvent, ce n'est donc pas la taille qui compte, que ce soit la taille des célébrations elles-mêmes ou la taille de ce que l'on fête. L'important, c'est de savoir célébrer les grandes choses comme les plus petites, comme le fait d'être, parce que je ne sais pas si vous, vous avez déjà simplement célébré le fait d'être, d'être là, d'être incarné, et d'exister tout simplement. Moi, en tout cas, cela ne m'était jamais, jamais venu à l'esprit avant l'intervention de la mère de clan qui glorifie, avant que je le rencontre pour la première fois. Alors, peut-être célébrez-vous des choses sans même vous en rendre totalement compte, parce que je viens de comprendre que j'ai beaucoup célébré toutes les réalisations de mes enfants, toute leur compréhension de nouvelles, tous leurs nouveaux acquis. Parfois, c'est tout simple, on va aller manger dans leur restaurant préféré, mais c'est peut-être aussi tout simplement un gros câlin bien long ou une tape dans la main bien sonore. Et nous voyons facilement, en fait, chez les autres plus que chez nous, quand on regarde ce qu'on aime, eh bien, on voit tout leur courage, tous leurs efforts, leur volonté encore et encore d'essayer, parfois jusqu'à y arriver. Mais nous, eh bien, nous ne voyons jamais tout à fait de la même façon ce que nous vivons nous-mêmes, parce que nous sommes toujours, toujours notre pire critique. Alors, c'est pour ça également que nous devons prendre un tout petit moment pour célébrer le fait d'être, même si ça peut être très surprenant. Et puis, je voulais également intervenir sur le fait, vous donner un petit témoignage, que ce qui m'a le plus étonnée lorsque j'ai commencé à me dédier à la prêtrise féminine de la déesse Isis, c'est le nombre incalculable de fêtes qu'il y a dans le calendrier égyptien. C'est tout bonnement incroyable. En fait, c'est simple, chaque jour est dédié à une célébration, que ce soit un dieu, une déesse, un événement. C'est tous les jours. Il y en a plus de 300. Donc, il m'était tout à fait impossible de me souvenir de tout. J'ai dû faire un tri. Et cela m'a amené à me pencher sur la question. Pourquoi est-ce que je vais choisir cette célébration plutôt que celle-ci ? Donc, qu'est-ce qui est en moi qui va plutôt me rendre encline à célébrer celle-là, justement ? Qu'est-ce que ça éveille en moi ? Qu'est-ce que ça cherche ? Et peu à peu, je me suis aussi demandé pourquoi des personnes qui avaient un autre niveau de vie, donc nos ancêtres, ont tellement, tellement inventé autant de fêtes. Alors que leur vie, eh bien, franchement, c'était loin d'être facile et tranquille. Chaque jour, ils devaient accomplir une quantité de travail absolument énorme, simplement pour pouvoir se nourrir, et ça, que pour une journée. Alors, pourquoi ? Pourquoi célébrer était-il, pour notamment les Égyptiens, une telle nécessité ? C'est totalement incroyable. Et voilà, quand je pense à une célébration, je pense immédiatement à une partie joyeuse de la vie. Forcément, l'humain a besoin de moments de joie, voilà. Mais je pense que cela va beaucoup, beaucoup plus loin que cela. C'est s'arrêter justement d'être productif, d'être dans la survie, et de créer un autre genre de moment, un autre genre d'espace. Un espace où on prend le temps de s'arrêter, de regarder ce qui a été accompli, de remercier, puisque vraiment la gratitude fait partie de la célébration, donc de remercier toutes les parties qui ont pu jouer un rôle dans ce processus créateur, que ce soit des réalisations artistiques ou le processus créateur de notre vie. Et là, on comprend que l'énergie est très différente. On n'est plus dans une logique de l'action, de la survie, du faire. Donc une énergie qui est somme toute masculine, mais dans une énergie beaucoup plus féminine. Et cela explique à quel point la dimension de la célébration aujourd'hui, on a commencé d'ailleurs par ça, ben, elle existe aussi peu, et notamment sur nos places de travail. Parce que nous savons bien que l'énergie féminine de réceptivité, de contemplation, n'est pas encore vue à sa juste valeur. Et pourtant, il a été prouvé par les neurosciences que notre cerveau et tout notre corps fonctionnaient bien mieux lorsque nous leur donnions une chance de prendre un peu de repos et de se recharger, tout simplement. Et les célébrations sont une telle opportunité. Alors, cela permet de prendre le recul nécessaire et de façon de voir un peu plus global de tout ce que nous faisons, et cela chaque jour. Mais c'est peut-être tout simplement quelque chose que nos anciens savaient d'une façon très intuitive qu'il nous fallait du repos pour se recharger, pour être dans la joie, pour continuer sur la route de la survie, sur la route de la productivité. Et pourquoi pas encore aller plus loin? Parce que célébrer, quand on y pense, ça se fait toujours avec d'autres humains, ou au moins un autre. On peut célébrer avec soi-même, mais ça n'a absolument pas la même dimension. Donc il y a également là un autre aspect de l'énergie féminine, hein, qui est caché dans la thématique de la célébration. C'est la faculté de nous mettre, chez nous au premier plan, la sphère relationnelle qu'il y a dans notre vie. Parce que oui, les célébrations, on l'a dit, c'est la création de cet espace sacré, cet espace positif qui est là également pour la joie, mais aussi pour établir des liens avec les autres, avec cet autre-là. Et cela va approfondir les relations, en particulier dans nos vies personnelles, où on va fêter les grands moments de l'année en famille, donc on va affirmer les liens familiaux. Mais peu à peu, les entreprises vont également les utiliser parce que on peut le voir, hein, à quel point eh bien le gouvernement cette année en 2020, puisqu'on a été touché par cette crise sanitaire, à quel point ils n'ont pas pu toucher aux fêtes de Noël, malgré la situation, parce que Noël, c'est un synonyme de famille, synonyme de notre dimension humaine qui a un besoin fondamental de créer des liens avec les autres et surtout de les entretenir. Et cela n'a pas échappé eh bien à la sphère professionnelle également, parce que dorénavant, en fait, on reconnaît le pouvoir de cohésion que créent les célébrations entre les membres d'une même équipe, par exemple. Il existe désormais des stages où on va emmener une équipe en montagne ou dans des stages de survie pour créer la cohésion comme ça. Et donc cette connexion va aussi s'établir naturellement parce qu'on va vivre ensemble une expérience joyeuse et positive, hein, dans le cas plutôt de la célébration. Et aussi parce qu'on va prendre tout simplement le temps de se parler un petit peu de plus personnellement, on va s'intéresser à ce que vit véritablement l'autre. On va éprouver des moments de compassion et d'ouverture et de vulnérabilité tout simplement aussi. Voilà, c'est déjà la fin de cet audio et je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir su vous permettre de contempler toutes les dimensions des célébrations et à quel point elles ont leur place dans notre vie et à quel point il est important qu'on leur crée cet espace et qu'elles redeviennent à la mode, non pas uniquement pour le côté festif. En France, on a de la chance, on est très très festif, on aime bien l'apéro, etc. Mais peut-être que ces festivités ont besoin d'ajouter un petit peu de sens, un peu plus. En tout cas, ce cycle intervenant au mois de décembre, je me permets de vous souhaiter de magnifiques célébrations de Noël. Bien entendu, il s'agit de la façon pour moi de vous le souhaiter, mais je vous remercierai d'entendre que, quelles que soient vos traditions ou quelle que soit la forme qu'elles prennent chez vous, de pouvoir la traduire pour vous. Et surtout, je vais vous demander de ne pas oublier de fêter l'être magnifique que vous êtes, que nous sommes, tout notre potentiel humain incroyable qui possède cette conscience à l'intérieur, cette conscience dorée, cette renaissance de l'être qui finalement est peut-être le but de nos cheminements sacrés. En tout cas, je vous remercie pour votre implication. Et puis, comme d'habitude, maintenant, je vous dis à très vite pour la suite de notre atelier. À très bientôt!